voulons nous préparer à recevoir sa parole. Nous voulons lui donner l'occasion de pouvoir déposer quelque chose sur nos cœurs, de pouvoir nous renouveler dans notre corps physique, dans notre âme, dans notre esprit. Nous voulons lui donner l'occasion de raviver notre intelligence par sa parole, afin que nous soyons en mesure, nous soyons capables de discerner son plan pour nos vies, capables d'interagir avec lui, capables de rester attachés à lui et de nous laisser conduire par lui. Seigneur, nous venons de le chanter et nous voulons une fois de plus le proclamer. Que personne n'est comparable à toi. Que ce soit, Seigneur, ici-bas, sur terre, dans tout l'univers. Que ce soit là-haut, Seigneur, dans ton ciel de gloire. Tu restes et demeures celui qui est incomparable. Incomparable dans ton être. Incomparable, Seigneur, dans ta manière d'agir et de faire. Incomparable dans l'accomplissement et la concrétisation de ta parole, Seigneur, parmi ton peuple. Tu restes, ô Dieu, unique, unique dans les merveilles que tu accomplis parmi les ceux que tu as fait créer à ton image. Tu restes merveilleux dans ton être, Seigneur, et ce matin, c'est avec beaucoup de révérence, beaucoup de crainte, beaucoup de respect, beaucoup de déférence, Seigneur, et dans un esprit de totale soumission à toi, que nous voulons nous asseoir et que nous nous asseyons à tes pieds et te demandons, Seigneur, de nous parler. Nous voulons que l'action de ta parole soit efficace en nous, que ta parole soit pertinente, Seigneur, dans chacun de nous, qu'elle puisse accomplir l'œuvre pour laquelle elle va être proclamée. Nous voulons, Seigneur, au terme de notre culte, repartir avec des vies touchées par ta parole, avec des vies, Seigneur, renouvelées par ta parole, avec des vases lavés, purifiés par ta parole. Bénis-la, sanctifie-la, et bénis ton serviteur qui va la proclamer, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, ce matin, je voudrais revenir sur le thème du dimanche dernier, à savoir le trésor dans des vases d'argile, le trésor dans des vases de terre. Et nous allons donc relire le texte qui nous a servi de base à notre méditation, à savoir la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens 4, 5 à 11. Nous lisons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons donc vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein de ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort, ou littéralement la nécrosis ou la mise à mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Amen. Gloire au Seigneur. Le trésor dans de vases d'argile, dans de vases de terre. Le dimanche dernier, j'ai essayé de montrer à chacun de nous comment il était important de pouvoir laisser Dieu nous conduire, nous instruire, Et pour cela, quelquefois, il faut recourir un peu aux mots dans leur sens originel. Et j'ai donc souligné tout de suite, la fois dernière, que le mot traduit par mort, au verset 8, n'est pas le même, ou plutôt au verset 10, n'est pas le même que nous trouvons au verset 11. Nous avons là donc deux concepts. Nous avons là deux idées différentes. La première idée, c'est celle donc d'un processus. C'est ainsi que certaines versions françaises ont traduit le mot nécrosis en grec par agonie ou mise à mort. L'accent est mis sur le processus, tandis que le mot traduit par mort au verset 11, thanatos, nous parle de l'état de consommation. Voyez-vous? Donc, si nous voulons, et c'est ça le secret, si nous voulons, mes amis, que la vie du Christ se manifeste en nous, si nous voulons que sa puissance soit accomplie en nous, il n'y a pas d'autre secret que de pouvoir déclencher le mécanisme de mise à mort, le mécanisme d'agonie en amont, afin de pouvoir expérimenter la vie du Seigneur en aval. Nous portons avec nous et dans notre corps non seulement la vie du Seigneur, mais aussi la mort. Parce que c'est lorsque la mort agit, lorsque ce processus de mise à mort est déclenché, lorsque ce processus d'agonie s'amorce, alors la vie du Christ peut jaillir, la vie du Seigneur, la puissance de Dieu, peut alors se manifester dans ce vase d'argile. Il est donc important que nous sachions que c'est une attente pour chacun de nous de voir la vie du Seigneur se manifester de manière surabondante dans chacune de nos vies. C'est une attente, c'est quelque chose après lequel nous soupirons, nous aspirons, de voir la puissance de Dieu s'accomplir de manière extraordinaire. Mais l'apôtre Paul nous dit, cette vie ne peut jaillir, cette vie de victoire, cette vie glorieuse, cette vie de réconfort, de salut, de délivrance, de libération, bref, cette vie au caractère exceptionnel ne peut se manifester que dans la mesure où la mort du Christ se manifeste également. Il faut que ce processus, mes amis, se déclenche en amont. Il faut que ce mécanisme, eh bien, se déclenche en amont pour pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de glorieuse en aval. Gloire au Seigneur. C'est tout donc le sens de la mise à mort, de l'agonie qui précède le jaillissement, la manifestation de la gloire de la vie de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous n'avons pas de choix. Il faut que notre vie meure afin que la vie du Seigneur se manifeste. Paul le dit, nous sommes pressés. Et comme je l'ai souligné la fois dernière, le mot pressé ici ne doit pas être compris dans le sens d'être pressé, c'est-à-dire de se hâter, de se précipiter, mais c'est plutôt pressé dans le sens d'être soumis à une forte pression, à l'instar d'un fruit qu'on comprime pour en extraire le jus. Vous vous rappelez de l'orange de la fois dernière? Eh bien, il faut que nos vies soient comprimées. Il faut que nos vies, mes amis, puissent être comprimées dans l'étau, pour qu'enfin la vie du Christ puisse en jaillir. Nous sommes pressés, nous sommes soumis à toutes sortes de tensions, cependant, nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désemparés. C'est-à-dire, quelquefois nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes décontenancés. Nous avons ce sentiment de ne pas savoir ce que nous devons faire. Désemparés, étant dans une impasse, mais arrivant toujours à passer. Alléluia. Persécuté, pourchassé, mais non rejoint, mais non vaincu, non écrasé. Alléluia. Abattu, terrassé, jeté à terre, mais non anéanti. Voyez-vous? Alors la question que nous nous sommes posée le dimanche dernier était de savoir comment nos vies peuvent-elles être comprimées en amont afin que le jus puisse en jaillir en aval? Comment nos vies peuvent-elles être soumises à telle ou telle autre pression pour qu'enfin la vie du Christ puisse jaillir? Eh bien, c'est au travers, mes amis, des épreuves. C'est au travers des différentes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est lorsque nous passons par le désert, quel qu'il soit d'ordre financier, d'ordre affectif, qu'il soit d'ordre matériel, d'ordre physique, peu importe. C'est lorsque nous sommes soumis à telle ou telle autre pression, lorsque nous rencontrons l'opposition, lorsque nous rencontrons l'humiliation, lorsque nous affrontons, mes amis, toutes ces situations adverses, eh bien, c'est seulement dans ce contexte-là que ces situations vont exercer sur notre vie une pression afin de permettre à notre vie de pouvoir donner toute sa mesure. Gloire à Dieu. C'est donc les épreuves, c'est donc les difficultés. Voilà pourquoi nous avons souligné la fois dernière que toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, eh bien, sont voulues de Dieu, car il ne peut pas y avoir de liquide tant que le fruit n'est pas pressé ou comprimé. Il ne peut pas y avoir jaillissement de la vie du Christ, manifestation de la gloire de Dieu, si en amont, mes amis, le processus de mise à mort ne se déclenche pas. Voilà la raison d'être des épreuves. Voilà la raison d'être des difficultés. Voyez-vous, et cela fait partie de notre ADN. Nous l'avons vu, non? Tout au long de la semaine. Ça fait partie du plan de Dieu. Cela n'arrive pas au hasard. Voilà pourquoi Paul a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Toutes ces difficultés, toute cette opposition, toute cette humiliation, mes amis, eh bien, est appelée à voir, à apporter une plus-value à notre vie. Gloire à Dieu. C'est de cette manière que nos vies vont être comprimées. C'est de cette manière que nous allons être soumis à une pression de plus en plus croissante. Et étant soumis à cette pression, alors la vie du Christ pourra jaillir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous l'avons vu au cours de notre séminaire. L'apôtre Jacques écrivant à l'église du Seigneur, eh bien, encourage ses bien-aimés en leur disant, considérez comme une occasion de joie, considérez comme quelque chose d'extraordinaire les innombrables épreuves qui vous arrivent. Gloire au Seigneur. Nous devons donc arrêter avec cette vision de la vie chrétienne qui exclurait la souffrance. Dès lors que quelqu'un souffre, eh bien, il est tout de suite taxé de quelqu'un qui manque de foi, qui manque de consécration. Pas du tout, mes amis. La vie du Christ ne peut jaillir. Sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Et quand est-ce que notre faiblesse se manifeste? C'est lorsque nous sommes soumis à des choses qui nous dépassent. C'est lorsque nous n'avons pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à toutes ces adversités. Alors les ressources d'en haut nous sont données. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, ce processus est indispensable de mise à mort, d'agonie. Il faut que cela arrive. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi je l'avais dit et je me permets de vous le rappeler. Nous devons résister. Nous devons avancer. Nous ne devons jamais baisser les bras lorsque nous affrontons une adversité, lorsque nous sommes soumis à toutes sortes de pressions, que ce soit dans notre propre famille, que ce soit dans notre travail, que ce soit même à l'église, lorsqu'il y a une forte pression, mes amis, eh bien, rendons grâce à Dieu. C'est de cette manière que notre moi va être de plus en plus comprimé. Car il ne peut pas mourir autrement qu'en étant comprimé dans l'étau des difficultés, dans l'étau, mes amis, des problèmes et des épreuves. La souffrance, l'adversité, la persécution, la tribulation, l'opposition, l'humiliation fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Ça fait partie de notre ADN, mes amis. La Bible nous dit que tout celui qui voudra vivre pieusement, tout celui qui voudra rester attaché à Jésus, à se laisser conduire par Jésus, celui-là connaîtra la persécution. Celui-là passera par toutes sortes de déserts. Celui-là, mes amis, connaîtra toutes sortes de difficultés. Car ce sont les épreuves, les oppositions, les humiliations qui vont finir par exercer une pression sur nous et permettre à la puissance de Dieu, contenue dans ce vase d'argile, de se manifester en aval. C'est dans le creuset des problèmes, dans le creuset des difficultés, que nos vies, mes amis, sont modelées et façonnées à l'image du Christ. Gloire au Seigneur. Les plus belles pages de l'histoire, de notre vie, nous les écrivons, mes amis, lorsque nous passons par des moments de désert, lorsque nous passons par des moments de difficultés. Voyez-vous? Ceci se vérifie même dans l'histoire des nations. Les grands hommes d'État sont ceux qui ont dirigé leur pays dans des moments de crise. Ceux qui ont affronté, voyez-vous, l'opposition, qui ont affronté la guerre et qui ont su amener leur patrie à la victoire. Voyez, j'avais lu rien que les statistiques aux États-Unis, les grands, tous ces grands présidents américains qui sont considérés comme grands, sont des gens qui ont exercé, mes amis, leur responsabilité dans des moments de souffrance, dans des moments de crise. Lorsque l'adversité est là, c'est pour nous une occasion de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Quand nous passons par le désert, eh bien ce que nous sommes se manifeste. Nous réalisons que nos ressources sont limitées et sont tarissables. Nous réalisons, mes amis, nos limites. Et en même temps, nous prenons conscience de la grandeur incommensurable de celui qui est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, nous sommes appelés chacun pour sa part. Chacun à son niveau a marqué l'histoire, non seulement de notre vie, mais l'histoire de notre Église, l'histoire de notre famille, l'histoire de notre pays, et a y laissé des traces indélébiles. Et c'est en passant par des moments difficiles, c'est en connaissant des difficultés, en les affrontant, en triomphant de ces difficultés, que nous allons marquer, que nous allons écrire les plus belles pages de notre propre histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez, la plus grande illustration de cette vérité, c'est le Seigneur lui-même. C'est Jésus, mes amis. Il a marqué l'histoire. Maintenant, réfléchissons un tout petit peu. Quelle est la partie de sa vie qui a marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la partie de la vie du Seigneur qui a laissé des traces et des traces qui se poursuivront jusque dans l'éternité? Eh bien, ce ne sont pas les miracles. Les personnes qu'il a nourries à partir de quelques pains, de quelques poissons. Ce n'est pas Lazare qui l'a ressuscité. La partie qui a marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire avec grand H. La partie ou la vie ou l'aspect de la vie du Seigneur qui a marqué l'histoire, non seulement de l'humanité, mais aussi de l'éternité, c'est sa mort. Sa mort, au point où le message de Jésus, eh bien, a été appelé, et est encore appelé, le message de la croix. Et la croix, ce n'est pas un lieu de joie, de bonheur, de suffisance. Un lieu où finalement on se pavane. Mais la croix invoque quoi? L'humiliation. La croix invoque l'opposition. La croix invoque la mort. Invoque la souffrance. C'est de cette manière. Et avec son sang, il a marqué l'histoire de l'humanité. Et les traces de ce qu'il a fait se poursuivront jusque dans l'éternité. Car même dans l'éternité, nous continuerons à contempler les marques, mes amis, des clous dans ses mains. Nous verrons. Et cela nous rappellera toujours l'amour qu'il avait eu et qu'il avait et qu'il a encore pour nous. C'est la mort. Voyez-vous? Il faut, nous portons avec nous, dit Paul, dans notre corps, la mort, la mise à mort, la nécrosis de Jésus, afin que le thanatos du Christ, la vie plutôt du Christ se manifeste. Gloire au Seigneur. Restons un tout petit peu avec le Seigneur. pour que nous comprenions davantage cela. Prenez les quatre évangiles. Lorsque vous les parcourez de fond en comble, les quatre, vous allez voir que chaque évangéliste introduit son écrit à sa manière. Vous prenez Matthieu, ben il commence par la généalogie. OK? Et puis il poursuit son récit. Vous prenez Marc, eh bien Marc ne commence pas avec la généalogie du Seigneur. Lui, il passe tout de suite à l'action. Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Et tout de suite, c'est la prédication de Jean-Baptiste qui appelle les gens à la repentance. N'est-ce pas? Il ne parle pas de sa naissance. Voyez-vous? Vous arrivez dans Luc, le médecin, en même temps l'historien. Eh bien, lui commence avec la naissance de Jean-Baptiste, qui n'est pas arrivée au hasard. Il commence par planter le décor, le cadre historique. Voyez-vous comment Jean-Baptiste est arrivé au monde? Ça a commencé avec son père Zacharie, avec sa maman Élisabeth. Comment l'ange, eh bien, a visité Zacharie alors qu'il servait le Seigneur au temple. Et comment Élisabeth va se retrouver enceinte. Et puis le même ange va se révéler à une jeune fille, eh bien, Marie. Voilà, Luc nous donne tous ces détails. Vous arrivez chez Jean, lui vous ramène avant l'éternité. Au commencement était la parole. Donc, quand vous prenez le quatre évangiles, vous allez voir, certes, les trois qu'on appelle les saints synoptiques ont des matières communes, des choses qu'ils ont ensemble. En même temps, chacun a des choses qui lui sont propres. Mais quand on arrive au récit de la passion, lorsque le moment arrive de parler, mes amis, de ce moment où Jésus va finalement être arrêté, où Jésus va être jugé, où Jésus va être humilié, où Jésus va connaître l'opposition, où Jésus va connaître le mépris, où Jésus va être traîné comme un brigand jusqu'à Golgotha, eh bien, lorsqu'il s'agit de la passion du Christ, les quatre évangélistes sont tous unanimes. Vous voyez? Tous unanimes! Parce que c'est la partie la plus importante. Imaginez-vous une communauté chrétienne qui n'aurait reçu que l'évangile de Marc. Elle aurait été bénie, oui ou non? Elle n'aurait pas su comment Jésus est né. Mais elle aurait vu c'est Jésus à l'œuvre. Alléluia! Fils de Dieu! Dont la venue avait été annoncée. Lorsqu'il est question de la passion, lorsqu'il est question de la souffrance, lorsqu'il est question, mes amis, de la mort de Jésus, les quatre convergent et se retrouvent ensemble, comme pour attirer l'attention des lecteurs sur cet aspect particulier de la vie du Christ, la passion de Jésus. Voyez-vous? C'est ce qui a marqué l'histoire de l'humanité. Encore aujourd'hui, on en parle. Il a souffert pour nous. Il a été brisé à la croix. Et quand, après avoir été brisé, après avoir été humilié, après avoir été pendu sur cette croix, mes amis, après avoir connu le rejet, après avoir connu la persécution, après avoir connu toutes sortes d'oppositions, et enfin après avoir posé sa vie sur l'autel de Dieu, par sa mort, quelque chose va se passer. Alléluia. Il nous est dit que lorsqu'il a remis l'esprit au Seigneur, lorsqu'il est mort, alors là, quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Quand il a nourri le foule, les morts ne sont pas ressuscités. Quand il a ramené Lazare, c'est seulement Lazare qui est sorti du tombeau. Il y en avait d'autres, hein? Il n'y a que lui. Alléluia. Mais lorsque lui meurt, lorsque sa vie est mise en évidence, par la mort, eh bien la Bible nous dit, d'abord la terre a tremblé. Il n'avait pas tremblé avant. La terre a tremblé, mes amis. L'obscurité tombait sur toute la terre. C'était quelque chose de terrible. Pourriez-vous vous imaginer l'angoisse dans le cœur? Tout d'un coup, une éclipse totale. Les gens ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Non seulement la terre tremble, non seulement l'obscurité tombe sur la terre, mais la Bible nous dit, mes amis, que des tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. Des saints sont sortis. Ils ont été aperçus dans Jérusalem. Nous portons avec nous la mise à mort de Jésus,
afin que la puissance de Dieu se manifeste. C'est lorsque nous sommes faibles qu'alors nous sommes forts. Gloire au Seigneur. Les morts sont ressuscités. Quelle manifestation glorieuse de sa puissance. Le centenier, l'officier romain, chargé de conduire l'exécution du Seigneur, eh bien, à un moment, voyant tous ces signes, je n'ai pas parlé de du voile du temple qui s'est déchiré en deux, de haut en bas. Le centenier, voyant cela, mes amis, a eu peur. Non seulement lui, mais tout ce qui était là. Sa langue se déliait. Et il a fait une belle confession de foi. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Mes amis, Kinshasa doit voir une manifestation de la vie du Christ. Nos familles, partout dans le monde. Mais pour cela, il faut que nos vies soient comprimées en amont. Il faut que nos vies soient soumises à toutes sortes de pressions. C'est pourquoi, ne te résigne pas, mon frère. Continue à affronter l'opposition. Le moi doit mourir. Le moi doit abdiquer. Ce moi orgueilleux. Ce moi soupçonneux. Ce moi arrogant. Ce moi hautain. Ce moi qui se met toujours en évidence. Toi, mes amis, laisse le trône à Christ. Et le moi abdique lorsqu'il est comprimé de plus en plus dans l'étau des épreuves. Là, on réalise que nos sources, ou plutôt nos ressources, sont limitées. Nous pourrions tout avoir, de l'argent. Voyez ? Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous arrive où nous réalisons qu'on ne peut pas tout acheter avec l'argent. Oui ou non ? Eh oui. Le moi, mes amis, doit être comprimé afin que la vie du Seigneur se manifeste. Oui, la vie du Seigneur. Elle se manifeste en aval lorsque ce processus de nécrosis, eh bien, se déclenche en amont. Alléluia. Lorsque nous mourons de plus en plus, c'est un processus, voyez-vous. Alors, la vie du Seigneur jaillit. La vie du Seigneur se manifeste en nous. Nous expérimentons la plénitude de cette vie. Et pour utiliser, encore une fois, ce mot qui nous a accompagnés tout au long de la semaine, cela fait partie de notre ADN. Le Seigneur, eh bien, a prononcé le verdict concernant le moi. Le moi doit mourir. Le moi ne doit pas, être cajolé. Le moi ne doit pas être parfumé. Le moi doit laisser la place qu'il occupe, afin que le Seigneur l'occupe. Alléluia. Je pense à cette histoire de cette dame, de cette femme qui un jour est allée voir le Seigneur alors qu'il était chez Simon, chez Matthieu. Et là, la Bible nous dit qu'elle avait un vase d'albâtre avec elle. Et dans ce vase, il y avait un parfum de nard de grand prix qui valait beaucoup d'argent. Voyez-vous, quand elle est arrivée, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle a oublié la valeur du parfum qu'il y avait. De toute façon, elle ne pouvait avoir qu'une telle attitude. Dites-moi la richesse que nous pourrions avoir par rapport à la bénédiction d'avoir Jésus. Il n'y a pas de comparaison, n'est-ce pas? Elle est arrivée, elle s'est jetée à ses pieds. Elle a brisé ce vase. Et le parfum qui était contenu dans ce vase a commencé à se répandre. Et là, ouais, le Seigneur avec ce parfum. Et ce parfum finit par remplir toute la pièce. Peut-être qu'il y avait des odeurs de chaussures, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait toutes sortes de choses. Mais lorsque le vase a été brisé, le parfum contenu dans le vase a pu alors exhaler son odeur. Alléluia. Le parfum a pu alors, mes amis, eh bien, absorber toutes ces mauvaises odeurs qu'il y avait dans cette pièce-là. Nos vies doivent être brisées, mes amis, si nous voulons qu'elles deviennent véritablement le parfum du Christ pour nous-mêmes, voyez-vous, mais aussi pour les autres. Lorsque vous pour telle ou telle autre raison, vous sentez mauvais et que vous êtes avec les gens, vous êtes d'abord le premier à le sentir et vous êtes mal à l'aise si vous êtes normal. Vous êtes mal à l'aise et en plus, ceux qui sont autour de vous le sont également, n'est-ce pas? Donc, mais quand nous nous parfumons, il n'y a pas que nous qui sentons cette odeur suave du parfum. Mais il y a aussi ceux qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Mes amis, il en est de même avec le Seigneur. Paul, nous avons déjà eu à parler de ce passage, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14, nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous entraîne toujours dans le cortège triomphal du Christ. » Alléluia. « Et qui par nous répand dans tout lieu le parfum » Alléluia. Ou l'odeur de la connaissance du Christ. Qui répand par nous l'odeur de la connaissance du Christ. Et la connaissance du Christ, ce n'est pas un savoir théorique, c'est la vie. Alléluia. Les gens doivent voir Jésus au travers de notre parfum. Les gens doivent voir Jésus au travers de nos vies et être touchés. Voyez? Il faut que nous soyons brisés. Il faut que nous soyons comprimés. Et tout cela à travers les épreuves, à travers la souffrance, à travers toutes sortes de problèmes, de difficultés, afin que sa puissance, la puissance de Dieu, eh bien, puisse donner toute sa mesure en aval. Gloire au Seigneur. Nous devons être brisés, afin que le parfum de Christ, eh bien, l'odeur de la connaissance du Seigneur, puisse se répandre autour de nous. Les gens sont à la recherche, mes amis, de quelque chose d'authentique, de quelque chose de vrai. Les gens cherchent des solutions idoines, des solutions authentiques, des solutions qui demeurent. Et nous, nous avons la solution. Et même mieux, nous sommes la solution. C'est lorsque nous mourons en nous-mêmes que le trésor qu'il y a en nous, la vie de Jésus, cette vie que nous avons par le Saint-Esprit, lorsque nous mourons en nous-mêmes, cette vie peut alors jaillir. Et lorsqu'elle jaillit, là où il y a, mes amis, l'affliction, eh bien, les gens expérimentent le réconfort et la consolation. Lorsque cette vie jaillit, là où il y a des gens sous l'emprise démoniaque, eh bien, les gens peuvent expérimenter la délivrance et la libération. Alléluia. Quand il est partout, il est passé. Voyez? Dans une synagogue à Nazareth, en Galilée, pendant qu'il prêchait, la Bible nous dit qu'il y avait là un homme qui était démonisé. Un homme qui était sous l'emprise des démons. Le démon s'est manifesté. La bonne odeur de la connaissance de Jésus a eu pour résultat que le démon soit mis mal à l'aise. Le démon était à l'aise dans la vie de cet homme à cause de la mauvaise odeur de la vie de la personne. Et les démons, eh bien, se sentent à l'aise là où il y a la pourriture, là où il y a des odeurs pestilentielles, des odeurs nauséabondes, des odeurs dégoûtantes. Là, les démons sont à l'aise. Mais lorsque la bonne odeur du Christ arrive, ils sont mal à l'aise. Car la bonne odeur du Christ donne la vie. C'est du parfum de bonne odeur. Et nous voulons, mes amis, que cette odeur de la connaissance du Christ se répande ici chez nous à la borne, se répande dans toutes les églises, se répande dans notre ville de Kinshasa. Les gens doivent connaître Christ. C'est par vous. C'est par nous, c'est au travers de tous ceux qui sont avec Christ que cette bonne odeur de la connaissance, cette bonne odeur, le parfum du Christ, pourra alors se répandre d'abord dans nos vies, ensuite autour de nous et au-delà. Nous ne devons jamais oublier, mes amis, qu'il y a autour de nous, qu'il y a dans nos familles, qu'il y a dans nos cités, dans nos quartiers, nos villes, eh bien, toutes sortes d'odeurs, des odeurs qui asphyxient la société, des odeurs de corruption, ça sent, non? Oui ou non? Des odeurs d'immoralité, d'impudicité, des odeurs de la fausse religion, des odeurs, mes amis, des pratiques occultes, des odeurs dégagées par toutes ces pratiques des marabouts, des diseurs de bonne aventure, des odeurs des faux ouvriers du Christ, des mauvaises odeurs. Ces odeurs-là, eh bien, ce sont des odeurs infectes qui apportent la mort. Et quand on est dans une pièce où il y a toutes ces odeurs, eh bien, elles finissent par vous asphyxier. Elles finissent par vous conduire tout droit à la mort. Et le seul antidote contre toutes ces odeurs, c'est l'odeur de la connaissance du Christ. C'est le parfum de Jésus, mes amis, qui a la capacité de pouvoir absorber toutes ces mauvaises odeurs. Les dames connaissent, hein, quand vous avez à la cuisine des mouches ou certaines odeurs, eh bien vous prenez des désodorisants. Oui ou non? Voilà, vous aspergez dans toute la cuisine et ces mauvaises odeurs partent des désodorisants. Il en est de même sur le plan moral, mes amis. Le monde est un vaste cimetière, une sorte de morgue, où vous n'avez que des odeurs de la mort, des odeurs pestilentielles, comme je l'ai dit, nauséabondes, dégoûtantes, des odeurs qui asphyxient et conduisent à la mort, voyez-vous. Et dans un contexte comme celui-là, quel est le remède? Quel est le désodorisant spirituel et moral, qui soit capable, mes amis, de détruire toutes ces odeurs de mort, toutes ces odeurs de péché? Quel est, mes amis, ce parfum qui seul est capable de pouvoir lutter contre la pollution morale, la pollution spirituelle engendrée par le péché, par la présence des puissances démoniaques? Quel est l'antidote? Eh bien, il n'y a pas d'autre secret. C'est l'odeur du Christ, alléluia. Mais cette odeur doit s'exprimer. Cette odeur doit être manifestée. Et pour cela, il faut que le vase soit brisé. Nous portons le trésor dans des vases d'argile. Nous avons ce parfum de nard en nous. Et tant que le vase ne sera pas brisé, eh bien, nous-mêmes, nous ne pourrions pas profiter de ce parfum de vie. Ceux qui vivent avec nous seront privés de cette grâce qu'il y a, unique grâce d'être au contact avec le parfum du Christ. Et aussi, là où nous vivons, dans nos familles, dans nos sociétés, nos villes, nos pays, c'est donc l'odeur du Seigneur qui seul est capable de détruire, de lutter contre la pollution morale et spirituelle. Ce n'est pas la pratique religieuse, au contraire, elle contribue à répandre cette odeur infecte. La religion, si bonne soit-elle, est incapable, mes amis, de changer, de combattre la pollution qui détruit notre monde. Voyez-vous, tous ces monoxydes de carbone spirituel qui détruisent tout, l'odeur du Christ. Gloire au Seigneur. Et pour cela, il faut que nos vies soient comprimées. Il faut que nos vies soient brisées. Alors le parfum en nous, le trésor en nous, dégagera, mes amis, cette odeur suave, cette odeur vivifiante du Christ. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voyez? Il faut que la puissance du Seigneur se manifeste dans notre vie. Mais cette puissance, eh bien, ne se manifeste que lorsque quelque chose se passe en amont. La mise à mort. Gloire à Dieu. Que nos vies soient brisées. Rappelez-vous de l'histoire de Gédéon. Face aux Madianites, on trouve cette histoire dans Juges 8. Le peuple de Dieu faisait face à ce peuple, aux Madianites et à d'autres bedouins du désert qui s'étaient à coalisé pour attaquer le peuple de Dieu. Eh bien, Gédéon a demandé à son peuple, selon l'instruction du Seigneur, de prendre de cruches vides, des torches et des corps, voyez-vous, et d'aller affronter l'ennemi. 300 personnes qu'il divisa en trois colonnes, voyez. Chacun avait sa cruche, et dans la cruche, des torches, voyez, et ils sont partis. Combattre. Quelle folie, mes amis. Comment faire face à une armée en ayant de cruches de corps et de torches.
Oui, la sagesse de Dieu, folie pour l'homme.
Alléluia. Lorsque nous marchons selon Dieu, quelquefois il nous demande de faire des choses simples, et quand nous obéissons, nous voyons des grands résultats. La différence se trouve dans la simplicité.
Alléluia.
Ils sont partis, mes amis. Ils sont arrivés, l'ennemi était en face. Eh bien, Gédéon a sonné avec tous ces gens, ils ont sonné du corps. Ils ont brisé leur cruche. Résultat, Dieu a commencé à agir parmi leurs ennemis.
Alléluia.
Leurs ennemis, eh bien, se sont retournés les épées contre eux-mêmes. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. Ils ont même poursuivi d'autres, ceux qui avaient pris la fuite. Il a fallu briser le cruche. Il a fallu que ces vases soient brisés pour que la puissance du Seigneur se déverse. Mon frère et ma sœur, il y a en toi quelque chose d'extraordinaire, plus qu'une bombe atomique. Crée en toi l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en toi, mes amis, c'est plus que toutes les armées qu'il y a sur cette terre. Ce trésor-là est contenu dans un vase de terre, dans un vase d'argile. Et ce trésor doit être vu par les autres. Ce trésor doit manifester, doit exhaler son parfum. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter que nos vies soient brisées. Tu passes peut-être par des moments difficiles. Tu connais toutes sortes d'épreuves. La souffrance est tout le temps présente. Eh bien, si tu es vraiment fidèle au Seigneur, si tu es là où Dieu te veut, si tu es sûr, tu as la certitude que tu es attaché à lui et que malgré ta consécration, malgré ton engagement dans l'œuvre de Dieu, malgré l'amour que tu as pour le Seigneur, tu passes néanmoins par des moments difficiles, eh bien, sache que cette épreuve-là est voulue par Dieu, est voulue de Dieu. Ça fait partie de ton ADN en tant que disciple de Jésus. Le Seigneur permet cela afin que ta vie soit de plus en plus comprimée, soumise de plus en plus à toute cette pression, des difficultés, de souffrances, etc., afin que, en aval, sa puissance puisse jaillir. Gloire au Seigneur, alléluia. Afin que cette puissance puisse d'abord jaillir en nous, se manifester en nous. Car lorsque cette puissance se manifeste en nous, eh bien, le caractère du Seigneur s'imprime de plus en plus dans notre conscience. Alléluia. Nous devenons de plus en plus conformes à lui. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, et ça vous devez le savoir, nous devons le savoir, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas tant ce qu'il fait pour nous, en nous donnant à manger, en nous donnant un véhicule parce que nous lui avons demandé, en faisant prospérer nos affaires, en nous donnant une femme en mariage, un homme en mariage, en permettant que nous arrivions au terme de nos études. Ce qui est important pour Dieu, mes amis, ce n'est pas tant ce qu'il fait pour nous, mais plutôt ce qu'il fait en nous. Ce qu'il fait en nous est appelé à demeurer éternellement. C'est ça la raison d'être, mes amis, de porter la nécrosis de Jésus en nous, puisque le moi va mourir de plus en plus, soumis à la pression, il va reculer, il va de plus en plus baisser le bras, voyez-vous. Et plus le moi abdiquera, plus le moi descendra de son piédestal, le Seigneur pourra alors occuper notre trône. Alléluia. Et lorsque le Seigneur arrive à occuper notre trône, mes amis, là, nous entrons pleinement dans le plan de Dieu pour nos vies. Nous pouvons être dans un désert et être vraiment heureux. Alléluia. Nous pouvons être n'importe où. Nous pouvons être dans une vie, connaître une vie d'exubérance matérielle. Peu importe, ce n'est pas tant le matériel. On peut avoir beaucoup d'argent et être un homme de Dieu rempli d'onction. Oui ou non? Oui. On peut être, mes amis, avoir beaucoup de biens matériels. Dieu n'est pas contre ces choses. C'est la gestion de ces choses. C'est la place que ces choses occupent en nous qui est importante. Voyez. Il y a des gens qui ont des biens, mais qui sont simplement des intendants, des gestionnaires, et qui gèrent leurs biens, tout en sachant que ces biens appartiennent à qui? Au Seigneur. Vous voyez? Il y a aussi des pauvres. de pauvres qui ne vivent pas la présence de Dieu. Voyez, ça nous devons aussi. Ce n'est pas la pauvreté qui amène la sainteté. Hein? Oui ou non? Oui, parce qu'il y en a qui pensent, oh, je suis pauvre, Seigneur. Oui, mais si Dieu doit te bénir, ce n'est pas parce que tu es pauvre. Oui, il aime le faible. Il fait lever son soleil sur tout. Sa bienveillance est là. Mais ce n'est pas tant ça, ta pauvreté qui va attirer le regard de Dieu en disant, enfin, Seigneur, tu vois, j'appartiens à l'ethnie la plus méprisée du Congo. Dans notre ethnie, il n'y a personne qui a un diplôme universitaire. Alors tu vois tout ça, prends-moi. Fais ceci, fais cela. Voyez-vous, Dieu peut avoir pitié. Et il agit quelquefois indépendamment de notre foi. Parce qu'il aime le monde, alléluia. Mais Dieu agit lorsque nous marchons par la foi. Peu importe ce que nous sommes, riches, pauvres ou je ne sais qui, de lors que nous marchons par la foi, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Donc, mes amis, nous devons mourir. Et je voudrais aujourd'hui, comme nous l'avons fait la fois dernière, prier. Pour certains d'entre nous qui passent par des moments difficiles et qui peut-être sont tentés de baisser les bras, qui pensent que non, ça n'est de trop. Je n'en peux plus. Et qui aujourd'hui, eh bien, ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous allons prier pour tout cela. Alors je vais vous prier donc d'incliner votre tête dans la prière. Je voudrais que chacun de nous se mette devant le Seigneur. Tel qu'il est, avec ses préoccupations, avec ce qu'il connaît. Et je voudrais demander à tous ceux qui ont besoin de prière ce matin, tous ceux qui passent par des moments difficiles et qui, avec le temps, sont de plus en plus découragés, désespérés, ils sont désemparés. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a parlé, vous aimeriez que nous puissions prier pour vous, afin que le Seigneur vous fortifie. Priez pour vous afin que vous compreniez que toutes ces difficultés, ces problèmes font partie du plan de Dieu pour votre vie. Ces choses font partie de votre ADN en Christ. Si tel est votre cas, vous pouvez vous lever là où vous êtes et nous allons prier pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui se lèvent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous portons avec nous aussi bien la mise à mort du Christ que sa vie. Et c'est dans la mesure où nous mourons nous-mêmes que la vie du Christ va se manifester. Alors je vais vous demander simplement de lever vos mains vers le ciel et d'invoquer le nom du Seigneur pendant que je vais prier pour vous. Afin que le Seigneur vienne vous soutenir. Afin que le Seigneur vous aide. Qu'il vous aide à comprendre que tout cela fait partie de son plan. C'est sur la croix que la plus grande puissance qui soit a été manifestée. Puissance de salut, puissance de libération et de délivrance à la croix. Père très saint, je me tiens devant toi avec tous ces bien-aimés. Ces bien-aimés qui ont compris aujourd'hui, Seigneur, que les difficultés par lesquelles ils passent, ce moment, ces temps de désert, cette opposition qu'ils rencontrent, cette humiliation qui fait partie de leur vie, Seigneur, c'est quelque chose qui fait partie de ton plan pour leur vie. Oh, je te prie de le fortifier. Seigneur, qu'ils ne puissent pas baisser les bras, qu'ils ne puissent pas se résigner, qu'ils ne puissent pas démissionner, mais qu'ils renouvellent leur confiance en toi. Car lorsque ton temps viendra, lorsque ce processus, Seigneur, arrivera à son terme, alors ta puissance jaillira. Alors les montagnes devant eux se crouleront. Alors les portes qui sont restées fermées s'ouvriront. Alors là où il y a la mort, la vie jaillira. Seigneur, l'opprobre s'éloignera d'eux. L'humiliation prendra fin. Dans ton nom, Seigneur. Mais en attendant, aide-le à mourir à eux-mêmes. Aide-le à continuer à te suivre. Seigneur, sans se relâcher, sans se fatiguer, en ayant leur regard fixé sur toi, en restant attaché à toi. Oh, bénis-les, Seigneur. Passe dans le rang. Souffle, Seigneur, et enlève le désespoir des cœurs. Souffle dans le cœur, ô Dieu, et enlève, ô Seigneur, le désemparement, le désappointement, et qu'à la place ta confiance et ta confiance seule puissent les remplir. Ô merci Jésus, tu es merveilleux. Fortifie-nous, renouvelle-nous, Seigneur, aide-nous à mourir à nous-mêmes, afin que ta vie puisse se manifester. Cette vie extraordinaire, cette vie extraordinaire, joyeuse, glorieuse, cette vie victorieuse. Aide-nous, Seigneur. Merci, Maître. Merci, Jésus.